Alternative sur CFM Caylus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. I have to
celebrate you, baby. Bonjour Laure.
Bonjour Joanne.
Aujourd'hui, le professeur Jean-Luc Nespoulous.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Qui est donc professeur émérite de l'Université de Toulouse de Jean Jaurès.
Oui, et... l'ex-Mirail, oui. Et membre honoraire de l'Institut, dites-nous tout.
De l'Institut universitaire de France.
Voilà, et vous avez été médaillé.
J'ai reçu en 2005 la médaille d'argent du CNRS pour donc l'ensemble de mes travaux en matière interdisciplinaire et... en matière de sciences cognitives, sciences de la cognition, sciences de l'esprit.
Donc, Laure, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un que...
C'est pas quelqu'un de très alternatif,
voilà,
en apparence.
Voilà, il faudrait aller chercher son site internet perdu dans une page Blogspot, machin, pas du tout.
Non, pas du tout. Non, on a affaire à un grand monsieur. Médaille d'argent du CNRS, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter une médaille d'argent?
Ben, il faut travailler et il ne faut pas faire de il ne faut pas poser sa candidature.
Ah, très bien.
C'est la communauté scientifique qui décide à un certain moment de sortir du chapeau certains noms, certains dossiers, et donc on l'apprend quand le processus est terminé.
Et donc ça veut bien dire que vos pairs reconnaissent vos mérites.
Normalement, oui.
C'est ça que ça veut dire.
Alors votre discipline...
De même que les publications scientifiques qui sont évalués par les pairs, comme on dit aussi.
Donc, si vous fouillez un petit peu sur Internet, la liste des publications scientifiques du professeur est absolument impressionnante. Votre discipline principale, ou plutôt pluridiscipline, c'est la neuropsycholinguistique.
Tout à fait. Alors, en fait, ma formation initiale est une formation d'angliciste et... dans un second temps, une formation complémentaire en linguistique générale, lorsque cette discipline est devenue en quelque sorte une discipline phare au sein des sciences humaines et sociales dans les années 60. Donc c'est-à-dire en plein moment où j'entamais mes études universitaires. Et donc j'ai été attiré par cette discipline qu'est la linguistique générale. Et très vite, j'ai été attiré, j'ai eu envie de trouver... un domaine scientifique qui est en même temps un impact applicatif, si possible humain. Et c'est ce qui m'a conduit à développer des travaux à Toulouse, donc à la fin des années 60, sur les troubles du langage consécutifs à des lésions cérébrales chez des patients qu'on appelle donc des patients aphasiques, donc qui ont subi une attaque, comme on dit habituellement, avec ou pas, selon les cas, des troubles moteurs, mais dans tous les cas avec des troubles du langage.
Oui, parce que pour revenir à la définition, linguistique, c'est tout ce qui t'intéresse à la langue. Psycho, c'est voilà, le niveau... Je vais vous laisser faire, je pense que
voilà,
ça
mais
vous ferait mieux que moi.
Disons qu'effectivement, quand on s'intéresse à... partons de l'humain, hein, quand on s'intéresse à une personne qui souffre à la suite d'un accident vasculaire cérébral, donc il y a des troubles du langage, on a une nécessité absolue de convoquer plusieurs disciplines. Donc, la discipline dont je suis parti, comme je viens de le dire, c'est la linguistique, dont l'objectif est de caractériser les propriétés des langues naturelles, quelles qu'elles soient. Mais la linguistique ne s'intéresse pas à la manière dont le cerveau et l'esprit humain gèrent le langage. Ça, c'est deux disciplines qui s'y intéressent. C'est d'abord la psycholinguistique, donc qui s'intéresse aux processus cérébraux et cognitifs qui nous permettent de... produire des messages, de comprendre des messages, et ce, à l'oral, aussi bien qu'à l'écrit. Voilà. Et puis, troisième couche, si je puis dire, troisième discipline, selon les cas, bon, certaines personnes ne s'intéressent pas au fonctionnement cérébral, à proprement parler. Moi, je m'y intéresse. Et donc, la question à ce moment-là, qui se pose, c'est de savoir comment ces processus cognitifs dont je viens de parler, en production, compréhension, à l'oral, à l'écrit, sont en fait gérés par le cerveau, c'est-à-dire par le hardware, par la machine, si je puis dire, cérébrale. Donc, on a besoin au minimum de trois disciplines, linguistique, psycholinguistique, neuropsycholinguistique, moralité de l'histoire, le terme de neuropsycholinguistique, qui, je vous l'accorde, est un peu long, résume bien le champ inter, voire même transdisciplinaire, qui est celui dans lequel j'ai travaillé pendant 45 ans.
Mais professeur, c'est vous qui l'avez inventé ?
Non, pas tout à fait. Je dis pas tout à fait parce que bon, je veux pas paraître immodeste, mais ce terme a été utilisé pour la première fois par des collègues neurologues en 1973, l'année de ma thèse. Ils s'en sont servis en sous-titre d'un ouvrage portant sur une variété, peu importe laquelle, de pathologies du langage, donc consécutives à un accident vasculaire cérébral. Mais ils ont utilisé ce terme sans nourrir véritablement conceptuellement le contenu que ce terme pouvait avoir, et sans développer une véritable méthodologie pour étudier ce type de pathologie. Et là, effectivement, si je puis dire, alors je dirais modestement, si j'ai contribué un petit peu au développement, la vulgarisation un petit peu de ce terme, c'est en lui donnant un certain contenu plus précis et en proposant une méthodologie adaptée.
Voilà. Très bien. Donc vous êtes intéressé donc aux troubles du langage, mais pas que. Votre intérêt se porte au-delà à tout ce qui est handicap quelque part.
Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, une lésion cérébrale. On pourrait imaginer qu'une lésion cérébrale met la pagaille dans le fonctionnement cérébral et cognitif de l'être humain. Si tel était le cas, on ne pourrait que constater que c'est la pagaille et on ne pourrait pas analyser de manière fine ce qui se passe. Une chance, pour les malades d'abord, et pour la science également, c'est que la lésion cérébrale, en règle générale, ne vient perturber que certains aspects du fonctionnement linguistique, et pas d'autres. Donc on observe des dissociations, comme ça, dans le comportement des gens. Certains ont des problèmes de production du langage alors que leur compréhension est intacte. D'autres ont des problèmes à l'oral, n'en ont pas à l'écrit, et vice-versa, etc., etc. Donc, si vous voulez, à travers l'observation de ces dissociations et de ces pathologies, on arrive non seulement à mieux comprendre le fonctionnement du langage ou le dysfonctionnement du langage chez ces patients, mais par contre-coup, on comprend mieux quelles sont les composantes du fonctionnement du langage chez le sujet normal. Je suis en train de vous dire métaphoriquement que, si vous voulez, on apprend comment fonctionne le moteur d'une voiture à travers, petit à petit, l'observation de tel ou tel type de panne du moteur. C'est exactement cette logique-là qui préside donc à notre travail.
Mais alors, dans un moteur, on met de l'essence, mais que mettons dans le moteur humain ?
Ah, mais dans le moteur humain, comme vous savez, il y a de l'électricité, il y a de la chimie, etc., etc. Et ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard, parce que ça débouche sur deux visions totalement différentes, en fait, mais sûrement complémentaires, du fonctionnement des relations entre le cerveau et l'esprit humain. Il y a une part qu'on peut qualifier de mécanique, de machinerie, de quincaillerie, physico-chimique, etc.
De quincaillerie ?
Non, mais c'est une image.
On aurait pu parler de tuyauterie.
Vous avez capté les guillemets, on aurait pu parler de tuyauterie. Et puis à côté de ça, il y a une vision qui est un peu plus spiritualiste, ce qui ne veut pas dire, le mot est dangereux, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on est en train d'adopter tel ou tel type d'idéologie particulière, etc., totalement non scientifique. Donc il va falloir apprendre à jongler avec les deux, et je pense que c'est un des éléments de notre discussion d'aujourd'hui.
Oui, parce vous dites spiritualiste, on aurait pu dire énergétique.
Oui, alors énergétique, même chose. Le mot énergie, si on remonte, enfin on peut remonter jusqu'à Aristote, mais enfin, sans remonter au déluge, comme on dit, l'énergie, le mot énergie, en fait, fait partie du vocabulaire de la physique. Bon, alors, l'homme a découvert, en devenant homme, en quelque sorte, qu'il avait certaines capacités énergétiques, et donc il s'en est servi. Ensuite, intelligemment, il a décidé de transférer une partie de ses énergies sur des animaux, quand il a commencé à domestiquer les animaux pour labourer la terre, etc. C'était plus confortable. Et ça a continué. Ensuite, on a domestiqué un peu le vent, puis l'eau, etc., etc. Le mot énergie, donc fondamentalement, il a un sens physique. Ça n'a pas empêché un certain nombre de, appelons-les des penseurs, parce que c'était pas encore des chercheurs au sens moderne et scientifique du terme. Voilà. Qui ont pensé que l'être humain se caractérisait également par une certaine énergie mentale, psychique, etc.
Il y a eu des expressions différentes.
Etc. Alors, il y a eu des expressions très, très différentes. Si on remonte, celui par lequel j'ai envie de commencer, c'est Barthès, donc, qui était un grand, on va dire, médecin de la grande époque de la faculté de médecine de Montpellier, et qui avait développé ce qu'on appelle, et le terme existe toujours, est toujours en vigueur, ce qu'on appelle le vitalisme.
Oui, il s'agit de Paul-Joseph Barthès. Hein.
Paul-Joseph Barthès, merci pour les prénoms. Donc, qui donc a travaillé à Montpellier et qui a développé la notion de principe vital. Alors, qu'est-ce que c'était le principe vital pour Barthès? C'est en fait tout simple. Barthès ne pouvait pas admettre que l'être humain soit ramené à une mécanique physico-chimique, pour reprendre les termes que j'utilisais il y a quelques instants. Pour lui, ce qui faisait, entre autres, une des caractéristiques spécifiques de l'homme, c'était donc ce qu'il appelait le principe vital. Son idée était que le corps humain, au fil des ans, se détériore, mais qu'en contrepartie, l'esprit humain, pour ne pas dire l'intelligence, parce que là les mots sont difficiles à manipuler. L'esprit humain, son objectif, c'était de survivre, en fait, le plus longtemps possible. Peut-être parce qu'il y avait la peur de la mort, mais en même temps, il y avait le désir de se maintenir en bon état le plus longtemps possible. Ce qui était difficile à cette époque-là, où l'espérance de vie n'était pas ce qu'elle est de nos jours.
Oui, on parle de la fin du XVIIIe siècle.
Oui, tout à fait. Absolument. Absolument. Donc, nous sommes dans une période qu'on peut considérer encore comme pré-scientifique, où la philosophie et la médecine dialoguaient encore. Ce n'est pas toujours le cas de nos jours. Enfin, il faut voir c'est l'importance de ces évolutions, si je puis dire. Alors après Barthès, il y a eu, on peut citer quelqu'un de très important, qui est Bichat, qui, c'est le nom d'un hôpital important de Paris, qui en particulier centre ses activités sur tout ce qui est gérontologie, gériatrie en particulier, etc., etc., qui lui parlait d'élan vital, notion d'élan vital, qui va nous intéresser en relation avec les énergies, dans un instant. L'élan vital, donc, c'est un genre de capacité qui ne fait pas l'objet de l'apprentissage de la part de l'être humain, et qui fait que, par exemple, en situation de handicap, en situation difficile, puisque vous parliez de handicap tout à l'heure, eh bien, l'être humain va essayer, encore une fois, totalement inconsciemment, spontanément, de trouver des palliatifs.
Des stratégies palliatives,
c'est-à-dire des stratégies de compensation ou d'évitement.
De contournement,
voilà, exactement. Dont l'objectif est d'essayer, en situation de difficulté, de trouver, donc, une alternative.
C'est de la résilience.
C'est un peu de l'oubli. Ouais. Non, vous avez raison de soulever, mais résilience est un mot trop fort ici. Mais, pour reprendre un exemple tout simple, quand la porte est fermée, on essaye de passer par la fenêtre. C'est une image tout à fait banale, rustique, tout ce que vous voudrez. Mais c'est de ça dont je suis en train de parler. Donc, je vous donne un exemple tout de suite dans le domaine du langage, puisque c'est mon domaine. Mais lorsque vous et moi avons quotidiennement, à un moment ou à un autre, des difficultés pour trouver un mot, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous essayons d'utiliser une périphrase, une circonlocution, pour essayer de transmettre à autrui le contenu qu'on n'est pas capable de transmettre à travers un mot précis. Donc, je ne trouve pas le mot « montre », ce qui est fréquent chez l'aphasique. Hein, vous lui montrez une montre, « Ah, je sais ce que c'est », il vous dit « Je sais ce que c'est ». C'est, attends, voyons, c'est pour donner l'heure, hein, par exemple. Donc, et l'enfant fait la même chose, sans lésion cérébrale, à l'âge de 2-3 ans. Il n'a pas un vocabulaire suffisamment développé à cet âge-là. Et donc, en situation de handicap, alors qu'il n'est pas handicapé, fondamentalement, mais il est en situation de handicap parce qu'il lui manque du vocabulaire encore, il va utiliser les mêmes stratégies que l'aphasique de 75 ans, par exemple, qui est la suite d'une lésion cérébrale, a du mal à trouver un mot, etc.
Et alors, est-ce qu'il peut le réapprendre, le vocabulaire?
Alors, ça, c'est tout toute la question de la rééducation, j'aime pas le terme, mais de réadaptation, je préfère, etc. Les travaux qui ont été menés sur la réadaptation fonctionnelle, comme on dit, tendent à montrer que ça n'est pas nécessairement un réapprentissage, mais que c'est un certain type de déblocage partiel. Je dis partiel, pourquoi? Parce que très souvent, l'amélioration des capacités de communication de ces patients va passer beaucoup plus par justement les fameuses stratégies palliatives dont je viens de parler, que par un nouvel apprentissage. Si on pouvait se dire, bon, ce patient a une lésion cérébrale, on va le soumettre à un programme orthophonique particulier, et il va réapprendre, bon, ça se saurait depuis longtemps, ça ne fonctionne pas. Donc il y a peut-être un certain type d'apprentissage qui s'opère, mais c'est plutôt une optimisation des capacités largement spontanées, palliatives, que j'évoquais à l'instant, qui permet à certains patients, pas à tous, hein, ne généralisons pas, d'améliorer leur capacité de communication, au moins avec leurs proches.
Bon, vous savez, professeur, de quoi je suis chargé dans cette émission ? De rappeler que tous les quarts d'heure, il y a une musique. Toujours dans Alternative, l'émission de Laure Rose aujourd'hui avec le professeur Jean-Luc Nespoulous.
Oui, vous parliez de stratégie palliative en situation de handicap. C'est une façon de regarder, de voir le handicap qui est plus positif que d'habitude. On est bien d'accord?
Absolument, tout à fait. Et c'est un point auquel j'ai toujours tenu, et ce, dès mes premiers travaux au début des années 70. Quand on observe, je vais prendre un exemple dans un domaine en dehors du langage. Quand vous observez quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral et qui a des troubles de la marche, hein, qui a une hémiplégie, comme on dit. Bon. Vous avez la possibilité d'avoir deux regards sur ce patient-là. Vous avez le regard officiel de la médecine. La médecine, son but majeur, c'est d'identifier des symptômes, et j'ajouterai le qualificatif de négatif, c'est-à-dire le médecin, il est là pour dire ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Mmh. D'accord ? Donc, vous regardez un hémiplégique qui essaye de remarcher un petit peu quelques semaines après son accident vasculaire cérébral sur le trottoir ici à Caylus, et vous dire, ben voilà, quelqu'un qui marche mal. Mmh. Il marche pas bien. L'autre regard, et c'est celui-ci qui m'a intéressé dès le début, et sur lequel j'ai mis l'accent dans les dernières années de ma carrière, le deuxième regard, c'est le suivant. C'est de dire, voilà, ce qu'est capable de faire ce malade pour se déplacer en dépit de son handicap. Et donc, comme vous le dites fort justement, c'est une vision nettement plus positive.
Ça change tout.
Ça change complètement tout, si vous voulez. Hein? Ça ne veut pas dire que il faut dire c'est parfait, il marche normalement, etc. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire, normalement?
J'allais vous poser la question, où est la norme?
Eh bien voilà, c'est le problème.
Comment mesurer l'écart de la norme, etc.
C'est le problème de la frontière entre la normalité et la pathologie, le normal et le pathologique, etc. Et j'ai toujours été influencé, dès les années 60, par la thèse de 1943, republiée dans les années 60 par Georges Canguilhem, qui a fini sa carrière avec une médaille d'or du CNRS, qui était natif de Castelnaudary, pas si loin d'ici. Et dans son ouvrage majeur sur le normal et le pathologique, il insistait beaucoup sur le fait que la différence entre le normal et le pathologique n'était pas une différence qualitative, donc c'était pas une différence de nature, mais une différence de degré. Et de fait, en 45 ans de carrière au contact d'aphasique, je n'ai jamais entendu un aphasique dire quelque chose que je n'ai pu observer chez un sujet normal, fatigué, stressé, soumis à un choc émotionnel, etc. Et bien sûr, sans lésion cérébrale dans ces derniers cas. Donc ça change beaucoup la nature des choses. La lésion cérébrale chez l'aphasique ne crée rien de neuf, de nouveau. Elle ne débouche pas sur un état de chaos total, auquel cas, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, effectivement, on dirait, il parle mal, il marche mal, etc. Bon. Et après, c'est ça, la question pour nous. Et après, on se rend compte que, à la différence du dément qui décline progressivement, l'aphasique va essayer de s'adapter, de se réadapter spontanément, et avec l'aide d'orthophonistes, bien entendu, au nouvel état de communicant, aux capacités linguistiques un peu amputées, en quelque sorte un peu perturbées, effectivement, du fait de la lésion. Donc ce point-là, il est tout à fait capital, et il réhumanise, d'un certain point de vue, le patient, plutôt que d'en faire quelqu'un qui a certains dysfonctionnements, c'est-à-dire certains boutons qui étaient sur le on, sont sur le off, etc., de manière très, très,
très, mécanique,
très froide et très mécanique. Ça permet de voir comment, spontanément, il ne réfléchit pas.
Non, il élabore naturellement
des stratégies que personne ne lui a jamais appris à l'école, de même qu'un enfant qui ne trouve pas un mot, dit, tu sais papa, c'est le truc qui sert à, etc. Personne ne lui a jamais appris à l'enfant à développer ses stratégies. Et ça, c'est un point majeur.
Mais est-ce que, du coup, on ne peut pas aller plus loin et se dire que quelqu'un qui a eu un trouble, comme il est amené à compenser, finalement, il ne s'arrête plus? Et quelqu'un qui a été accidenté, on s'aperçoit qu'il a développé plus de capacités que quelqu'un qui s'est laissé porter par la vie.
Votre vision, que je comprends très bien, est un peu idyllique. En ce sens que la différence entre vous et moi, quand nous avons du mal à trouver un mot, pensez aux difficultés que nous avons à trouver des noms propres, par exemple. La différence entre nous et les patients, c'est que nous, nous allons trouver effectivement une périphrase qui va être efficace. Le problème d'un aphasique qui a du mal à trouver un mot, c'est que dans la périphrase qu'il va développer, il va être repris par cette difficulté pour trouver les mots. Ce qui fait que souvent, ces fameuses stratégies palliatives, surtout en phase aiguë, vont avorter, d'un certain point de vue, ne vont pas être efficaces. Ceci pour dire que je ne suis pas en train de dire nous sommes tous handicapés, voilà, tout va très bien, il faut positiver à 100%. Non. Mais, en même temps, il y a des domaines, il y a des sous-domaines dans lesquels on peut positiver. Et l'orthophoniste, par exemple, va pouvoir s'appuyer sur les propres stratégies palliatives que le patient essaye de développer spontanément pour ensuite l'aider à enrichir ses stratégies et à améliorer ses capacités de communication.
Mmh. Il me semble d'ailleurs.
Ou alors, j'espère que je vais avoir des questions sur les différentes langues. Est-ce qu'il y en a de plus facile que d'autres?
Ah non, je ne pensais pas du tout m'intéresser à ça, mais on peut peut-être...
Ah bon.
Ben, je peux vous répondre en un mot. J'ai mis un mot parce que j'ai participé à une certaine époque, dans les années 80, à un projet où nous avons comparé des patients aphasiques, donc tous, j'entre pas dans les détails, mais dans 14 langues différentes. Et on avait fait exprès, bien entendu, de prendre des langues très contrastées. C'est-à-dire, bon, l'espagnol, l'italien, le français, etc., bon, c'est trop proche. Mais on avait l'hindi, on avait le japonais, le chinois, le finnois, l'islandais, le serbo-croate, bon,
etc. Et le basque pour compliquer.
Et le basque n'y était pas à ce moment-là, mais il y est entré par la suite grâce à une de mes étudiantes. Mais et donc l'idée, justement, là, était de voir ce qui, à la suite d'une lésion cérébrale, pouvait se retrouver dans les symptômes de ces patients, quelle que soit la langue qu'ils parlaient, par opposition à des symptômes qui seraient conditionnés par la nature structurale de la langue en question. Le français n'est pas l'anglais, le français n'est surtout pas le chinois, etc., etc. Et on trouve, dans tous les cas, des points communs, ce qui montre bien qu'il y a des invariants universels qui font partie de l'espèce humaine, si je puis dire. Et qu'à côté de ça, effectivement, c'est pas la même chose à l'oral de parler chinois, basque, comme vous disiez, ou français. Et à l'écrit, c'est pas la même chose d'écrire une langue alphabétique comme le français, ou le cyrillique, bon, etc., ou d'écrire en chinois ou en japonais avec un système mixte, etc., etc.
C'était donc une bonne question.
Ah oui, je suis très content.
Je ne vous le fais pas dire.
Justement, moi j'avais une question sur, est-ce que vous avez répondu, sommes-nous tous handicapés? Mais la vraie question, c'est peut-être, sommes-nous tous normaux?
Mais disons que la réponse aux deux questions est la même. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon... nous sommes tous, comme je l'évoquais tout à l'heure, soumis à un moment ou à un autre, pour des raisons X ou Y, à des situations, enfin nous vivons des situations qui sont des situations de handicap. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il parle, je sais qu'il parle français a priori par exemple, mais je ne sais pas comment il s'exprime, etc., etc. Je suis en situation de handicap, a fortiori si c'est un supérieur hiérarchique, donc là je tremble de tous mes membres, il y a de l'émotion qui se rajoute, etc. Si vous voulez un exemple. Bon, donc nous sommes tous susceptibles d'être en situation de handicap. Donc la différence, je reviens à Georges Canguilhem, entre nous ici, dans ce studio, et un aphasique, ou un dément, ou un autiste, etc., etc., c'est que eux sont en permanence, quasiment, en situation de handicap. Alors que nous, c'est épisodique. Mais ce qui est intéressant dans la comparaison entre les deux, c'est que souvent, les stratégies, les symptômes, au sens large du terme, pas au sens négatif du terme, sont les mêmes dans tous les cas. Ce qui montre bien que le cerveau et l'esprit humain n'est pas capable d'engendrer n'importe quoi.
Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble que la médecine s'est surtout intéressée à l'hypofonctionnement dans le handicap. Alors que moi, je suis un petit peu comme vous, toujours essayer de voir les choses du côté positif. L'hyperfonctionnement est tout aussi intéressant. Par exemple, chez les autistes, moi, je connaissais une enfant qui était autiste profondément, qui ne pouvait pas communiquer, mais qui était capable de faire un puzzle de 3000 pièces sans l'image. Ou ce qu'on appelle les enfants surdoués, qui se surdéveloppent d'un côté.
C'est une excellente question. Pendant très, 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 très longtemps, le handicap a été considéré comme un hypofonctionnement. Donc, quelqu'un qui ne savait pas faire, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas au niveau moyen
statistique
de la population. Donc il était inférieur. Bon. Alors effectivement, si on prend le cas des autistes dits de haut niveau, mm-hmm. Asperger, etc., on va voir que dans certains cas, ces enfants, puisqu'on commence à les observer dans le jeune, peuvent être extrêmement compétents, hyper compétents, dans un domaine, alors qu'ils sont véritablement mm-hmm. très perturbés mm-hmm. dans pas mal d'autres domaines. Mm-hmm. Donc c'est là que vous trouvez des calculateurs prodiges. Mm-hmm. J'ai eu l'occasion d'observer à l'hôpital de la Timone à Marseille, il y a plus de 30 ans, un patient qui a fait l'objet d'émissions de télévision à l'époque, etc., qui était capable de résoudre des multiplications de 2x8 chiffres plus rapidement que le temps que ça vous prenait à vous de taper sur la calculette. Enfin, c'était impressionnant. Mais à côté de ça, lui demander d'où venait l'œuf de la poule était une question pourtant simple. Non, non, mais je force peut-être un peu le trait, mais à peine. C'est pour mieux faire passer oui. le message. Mm-hmm. Vous voyez, voilà. On sait qu'il y en a aussi qui sont hypermnésiques, donc ils sont capables d'apprendre des pages entières
oui,
du bouton,
oui, oui.
Etc., ce qui n'est pas d'une grande utilité.
C'est assez curieux parce qu'il semble que ces hyperfonctions soient toujours voilà, d'ordre neurologique et que les hypofonctionnements soient souvent d'ordre social, comme les surdoués qui sont de très bons mathématiciens et qui ne sont pas très bons dans les relations humaines ou pour comprendre par exemple le deuxième degré des dialogues.
Oui, mais là encore, je dirais que bon, là on est obligé, pour aller vite, de tenir les propos un peu binaires. Et la réalité est beaucoup plus complexe qu'une opposition binaire. Donc il y a pas mal de variabilité, si vous voulez, dans cette observation.
Bon, moi j'ai une question quand même. C'est quoi l'horizon? On va demander à Dominica.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la Baggio des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Te fais des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobber le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine. Déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine. Les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines. Car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan. par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent, et tu entends au loin les plaintes des baleines qui, avant de finir sur la grève, ont sans doute connu cet horizon dont seul le capitaine espère encore pour deux que tu croises la route. Mais un jour au silence qui monte aux alentours, comme tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, qui dessous tes haillons sent la chair s'assécher, les commandes de l'encercle il va pourtant te prendre. Le décor s'aplanit, les courbes se défont, tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre. C'est lui qui vient à toi, il est là, l'horizon.
Le professeur Nespoulous dans l'émission Alternative avec Laure Rose est très intéressant, même pendant qu'on écoute de la musique. Alors on a...
Oui, c'est vrai. Non, je crois qu'on va rester 2 heures. En fait, on va vous garder un peu plus longtemps. Il y a pas mal de personnes connues qui ont fait... On parlait d'hyperfonctionnement dans les handicaps. Hein. Il y a pas mal de personnes connues qui ont profité de ces hyperfonctionnements pour faire des choses formidables. On a Glenn Gould, Einstein, Alan Turing...
Petrucciani.
Non, je ne sais pas.
Sauf que lui avait, pour commencer par Petrucciani, j'y arriverai, lui avait quand même un problème qui n'était pas un problème neurocognitif central, si je puis dire. Mm-hmm. Hein, c'était bon. Non.
Donc on ne compte pas.
Voilà, enfin bon, je n'oserais pas dire ça parce que je l'aime beaucoup pour d'autres raisons. Alors Glenn Gould, oui. Bon, c'est un cas encore différent. Je voudrais me concentrer plus spécifiquement sur le cas d'Einstein. Parce que, comme vous savez, depuis maintenant, on peut dire, une bonne vingtaine d'années, les travaux sur la dyslexie ont pris, comment dirais-je, un virage par rapport à ce qui se disait dans les années 60. Dans les années 60, un dyslexique, et l'autiste d'ailleurs, idem, était plutôt considéré comme quelqu'un qui avait des problèmes, on va dire, psychologiques, pour aller vite. Problèmes psychologiques, ou très souvent était, de manière absolument honteuse, quand on y réfléchit aujourd'hui, invoqué le rôle de la mère, de l'environnement, etc., etc., etc.
C'est beaucoup... toujours le faute de la mère.
Alors, beaucoup d'âneries ont été dites à cette époque-là. Des travaux beaucoup plus sérieux, s'appuyant donc sur une méthodologie expérimentale et scientifique attestée, ont clairement montré que l'autisme était une maladie qui n'avait pas de cause fondamentalement psychologique, même si ça a des conséquences, bien entendu, au niveau psychosocial, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. L'exemple sur lequel je vais m'attarder juste quelques instants, c'est l'exemple d'Einstein. Einstein, donc, on sait, c'est bien documenté, qu'il était hautement dyslexique. Quand vous dites ça à des parents qui ont un enfant dyslexique, ça m'est arrivé souvent dans des conférences, etc., dans des causeries, vous voyez immédiatement dans le regard des parents
quelque chose qui se passe et qui change.
Si, attendez, mon enfant, il a une dyslexie, c'est une maladie, c'est une pathologie, donc il faut essayer d'obtenir à l'école un tiers-temps pédagogique supplémentaire lors des examens, etc., etc., etc. Très bien, ça c'est nécessaire pour ces enfants-là. Et même pour ces adultes-là. Mais ça n'a pas empêché Einstein de faire la carrière que vous savez. Et donc, alors, on ne va pas faire de relation de cause à effet entre les deux paramètres.
Oui, pas de relation concernant Einstein.
Voilà. Ce n'est pas parce qu'il était dyslexique qu'il a développé la théorie de la relativité, etc.
Non, mais ça
etc.
ne l'a pas empêché.
Mais ça ne l'a pas empêché d'eux. Voilà. Et vous savez, regardez un exemple trivial aussi, qu'en général les gens comprennent facilement. Dans l'espèce humaine, nous connaissons tous autour de nous des gens qui chantent faux. Mais on dit « chante faux ».
Personne ne chante faux.
Voilà, on dit « chante faux ». On dit « chante faux » et en même temps on dit « bon, ben, il chante faux, mais c'est pas plus grave que ça, parce que, il n'est pas chanteur de profession, etc., etc. » Quelqu'un qui parle mal, ou qui lit mal, qui écrit mal, vu l'importance sociale, culturelle, du langage dans l'espèce humaine, effectivement, ça met cette personne en situation de handicap. Donc, à la limite, il chante faux, c'est pas dramatique, tout le monde peut pas devenir chanteur, ou violoniste, ou pianiste, etc., etc., etc. Mais, bon, c'est pas parce que quelqu'un a un problème, voire même un dysfonctionnement, dans un domaine particulier, que cela va l'empêcher d'être bon, voire même très bon, dans un autre domaine. Et ça change là aussi le regard, pour revenir à la dyslexie, ça change en particulier le regard des parents par rapport à leur enfant. Parce que sinon, ils ont tendance à dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une dyslexie, c'est une maladie presque honteuse, si je puis dire.
Et changer le regard des parents, ça peut changer la vie d'un enfant.
Bien entendu. Mmh. Et la vie au niveau de la maîtrise du langage écrit, puisque c'est là qu'est le problème, mais également la vie tout court, la vie sociale, les contacts avec les autres, etc.
Donc, votre propos, c'est vraiment de dire qu'il faut changer le regard sur le handicap.
Ah, ça c'est tout à fait clair. Alors, on a eu une percée en France importante. Enfin, avant de parler de la percée, soyons clairs. La France est en retard au niveau mondial. Mm-hmm. Et je ne vous citerai pas tous les pays, parce qu'il y a certains pays, quand on compare la France à certains de ces pays, on se sent honteux.
Ne serait-ce que la Grande-Bretagne.
Bon. Hein. Oui, mais là, la Grande-Bretagne est un pays développé. Bon. Mais il y a des pays non développés où c'est mieux géré, à la limite, le handicap, par la famille, par le village, etc., qu'en France. Mais restons-en à la francophonie. Pourquoi les familles du nord de la France, quand elles le peuvent, envoient leurs enfants autistes en Belgique ou en Suisse, s'ils habitent l'Est? Pas au Québec, parce que c'est un peu trop loin. Mais le Québec, petit pays, 6 millions d'habitants, est beaucoup plus en avance que nous en France. Alors, comme je disais, il y a eu une percée en 2005 avec la loi qui a été votée en France sous la présidence de Jacques Chirac. Nous sommes en 2015 et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Qu'on demande aux handicapés d'attendre encore 2 ans parce qu'il n'y a pas les moyens de faire ce qui était prévu dans le programme, qui était pourtant un programme sur 10 ans. C'était pas un programme sur un an ou deux.
Oui, c'était prévu pour 2015.
C'était un programme dans la durée, donc c'était 10 ans, 2015. 2015, le bilan, eh bien, on dit, bon, même si les gouvernements ont changé, ça n'ajoute rien, enfin, ça n'intervient pas dans le débat, nous sommes et nous continuons à être en retard. Et c'est une véritable honte. C'est une véritable honte. Là où il y a des progrès qui ont été faits, c'est pour les trottoirs pour les aveugles, les places de parking, les toilettes, y compris dans les restaurants, etc. Tout ça est très très bien. Mais il y a des tas de domaines où ça n'est pas le cas. Par exemple, j'en n'en prendrai qu'un. Le suivi d'enfants handicapés en milieu scolaire. Pour lesquels il est prévu des auxiliaires de vie scolaire. Qui sont, j'ajoute en passant, sous-payés par le pays, par l'État français.
Par l'État, oui.
Hein, ils sont à des temps partiels, au maximum, ils arrivent à se faire 880 euros par mois. Enfin, c'est une véritable honte, et là, c'est pas un patron voyou, c'est l'État qui est un voyou dans ce domaine-là. Bon. Eh bien, il faut pas s'étonner qu'effectivement, il n'y ait pas assez d'enfants intégrés dans le milieu scolaire. Enfants handicapés. C'est pas l'instituteur habituel qui peut gérer tout cela, c'est-à-dire il en a assez à gérer un groupe classe. Si en plus il a un ou deux handicapés dans la classe, il faut qu'il y ait ces auxiliaires, de la même manière que en fin de vie, c'est le problème des auxiliaires de vie à la maison, etc. pour les personnes âgées. Grosso modo, c'est la même problématique. Il y a un effort colossal à faire dans ce domaine, et 10 ans après, on est obligé de constater que tout n'a pas été fait.
Et c'est pour illustrer ça que tu m'as choisi Yves Montand qui chante Prévert, la page d'écriture.
Ben bien sûr.
Deux et deux, quatre et quatre, huit. 8 et 8 font 16, répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. Et 8 font 16, mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître. Mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. Et 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. 16 et 16 et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont. Et 4 et 4 et 2 et 2 à leur tour affichent le camp. Et 1 et 1 ne font ni 1 ni 2. 1 et 1 s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue et l'enfant chante. Et le professeur crie, quand vous aurez fini de faire le pitre, mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable. L'encre redevient eau. Les pupitres redeviennent arbres. La craie redevient falaise. Le porte-plume redevient oiseau.
CFM.
La page d'écriture, Montand et Jacques Prévert dans Alternative, l'émission de Laure Rose avec Jean-Luc Despoulouse, professeur émérite de l'université Jean Jaurès.
Comme quoi, des fois, on a des invités émérites à CFM Caïus. Hein. Professeur, je vous invitais parce que ça m'a été suggéré par les organisateurs du Salon aux énergies qui se déroule à Caussade le 11 et 12 avril. Et vous faites en fait la conférence d'ouverture le vendredi 10 avril à 19h30 en salle des Récollets sur ce sujet que nous venons d'aborder. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites dans un salon dévoué aux pratiques alternatives ?
La question mérite d'être posée, je vous l'accorde. Mais si j'ai accepté la proposition qui m'a été faite, bon, il y a une raison purement factuelle, si je puis dire, c'est que j'ai pris ma retraite à Caussade, ou à côté de Caussade, à Monteils. Voilà, donc j'étais sur place, et certains des organisateurs, il se trouve que je les connais, que ce sont des gens au grand cœur, etc. Et donc j'ai accepté. Mais j'ai accepté plus sérieusement et plus profondément, parce que je pense que dans ce que l'on peut appeler le monde du savoir, au sens large du terme, et il ne faut pas que cette expression soit prise pour quelque chose de pompeux, d'intellectuellement complexe, etc., etc. Il arrive souvent que les communautés s'affrontent de manière parfois brutale et s'affrontent sans se rencontrer. Mmh. Et j'ai toujours pensé qu'il était important que des gens qui avaient des parcours différents se rencontrent, discutent, éventuellement considèrent que bon, la mayonnaise ne prend pas, comme on dit chez nous. Mais éventuellement aussi, ça m'est arrivé N fois dans ma vie professionnelle, c'est, il faut qu'on se revoie, parce que là, il y a un point d'accroche possible. Vous avez des choses à m'apporter, et j'ai des choses peut-être à vous apporter. D'où la notion d'interdisciplinarité que j'ai évoquée dès le début de notre entretien, et pour laquelle j'ai été à un certain moment officiellement reconnu par les pairs. Dans ce contexte-là, ne pas perdre de vue en particulier le fait que certains phénomènes qui, à certains moments, ont été interprétés de manière fantaisiste, parce qu'on manquait d'outils scientifiques, eh bien, petit à petit, chemin faisant, sont devenus, ont été réinterprétés, on a eu la possibilité de les réinterpréter scientifiquement dans le cadre d'un schéma, d'un modèle structuré, argumenté et vérifiable scientifiquement avec une méthode, par exemple, expérimentale, comme l'apprenait en France quelqu'un comme Claude Bernard à l'époque. Et on pourrait citer des tas d'exemples comme ça. En sens inverse, je pourrais vous dire, est-ce que ce qui se passe dans l'industrie pharmacologique, etc., c'est toujours sérieux et scientifique ?
Oui, ça serait. Hein.
Nous avons quelques exemples récents qui montrent que certains médicaments se sont avérés dangereux, parce qu'ils ont été peut-être mal utilisés ou mal prescrits à certains moments. D'autres médicaments qui étaient prévus pour soigner une maladie, on se rend compte qu'ils sont bons pour une autre maladie, ça fait pas très sérieux, ça. Et pourtant, nous sommes là dans le cadre d'une démarche qui est la démarche officielle, d'un laboratoire qui teste une molécule avec un protocole qui est toujours le même, bien mélangé, etc. Et à un certain moment, est décidé, tombe une autorisation de mise en marché. Donc, vous savez, demain, au moment où nous enregistrons cette émission, nous allons peut-être observer une éclipse qui sera totale à certains endroits sur notre planète. Ce phénomène-là faisait peur aux gens, à une certaine époque. Et comme ils n'avaient pas d'outils, ils recouraient à quoi ? Ils recouraient à des forces occultes. Certains parlaient de Dieu, d'autres du diable, qui avaient les mêmes pouvoirs, apparemment, dans cette affaire-là.
C'est toujours le cas aujourd'hui,
etc. Et puis, à un certain moment, maintenant, avec les puissances du calcul mathématique, par exemple, on arrive à prédire à la milliseconde près, par exemple, l'évolution d'une éclipse. Donc, ce qui n'est pas considéré comme scientifique à un certain moment peut devenir scientifique un peu plus tard. Par contre, il y a une, et je terminerai là-dessus, si vous permettez, il y a une clause qui doit être systématiquement et scrupuleusement respectée, c'est une clause éthique. Par les uns, officiellement dans la science, comme par les autres, qui officiellement ne sont pas dans le domaine scientifique. S'il y a cette clause d'éthique, si cette clause d'éthique est respectée, on peut avancer tranquillement. Voilà pourquoi j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de dire en substance de reprendre en substance certains des éléments que je viens d'évoquer ici lors de cette émission, lors de la conférence inaugurale donc de cet événement du 10 avril.
Bah, c'est une très belle réponse. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous recevoir. Et Johan aussi, je pense.
Mais alors, moi, je resterai encore des heures. Hein, parce
oui,
que
oui.
J'en ai
vous
des
pouvez
questions,
revenir, moi. Vous pouvez revenir, hein, sans problème.
Par exemple, faut-il croire à la métempsychose anthropomorphe pour que des gens, d'un seul coup, après une lésion cérébrale, se mettent à parler une autre langue?
Oui. Ah, alors, vous reviendrez. Ah,
alors, je reviendrai, si vous voulez, mais je n'ai jamais vu de personne, à la suite d'une lésion cérébrale, se mettre à parler une autre langue.
Ouais, sauf un mot.
Mais dans certaines sectes, dans certaines sectes religieuses, certains l'ont prétendu.
Merci. Merci beaucoup.
Merci, professeur. Voilà.
Alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. I have to celebrate you, baby.